And if you don't stay long.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Au micro, Salwa Jafari et Morgane Guériec. Bienvenue à l'édition du vendredi 17 avril 2015. À la une ce soir.
Le Burundi, deux policiers ont été tués lors des manifestations contre une éventuelle candidature du président sortant, Pierre Nkurunziza.
Lutte contre Boko Haram. Le Nigeria n'a pas besoin d'aide militaire de l'ONU, estime le président Goodluck Jonathan.
Présidentielle togolaise, l'église catholique refuse d'observer le scrutin du 25 avril prochain.
Comme on n'a pas fait les réformes constitutionnelles et institutionnelles, nous n'allons pas observer parce que c'est comme si on se servait de l'église pour avaliser des forfaitures juridiques.
Gros plan sur l'immigration. En Afrique du Sud, plus de 5000 immigrés ont été déplacés par les violences xénophobes qui secouent le pays depuis 3 semaines.
Pendant ce temps, du côté de la Méditerranée, on compte déjà 900 migrants noyés depuis le début de l'année.
On voit qu'ils mettent beaucoup plus de personnes sur les bateaux et par conséquent, dès qu'il y a un incident, il y a beaucoup plus de morts.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Le Nigeria n'a pas besoin d'aide militaire de l'ONU. Une invitation à la non-ingérence lancée aujourd'hui par Goodluck Jonathan au sein même des Nations Unies. Jonathan demande plutôt une aide humanitaire et sociale pour faire face aux problèmes de Boko Haram. Claire Moingibour revient sur sa déclaration.
Les Nations Unies feraient mieux de se concentrer sur l'aide humanitaire et la reconstruction sociale du Nigeria. Nous n'avons pas besoin de leur aide militaire. C'est la déclaration choc de Goodluck Jonathan, le président du Nigeria, qui remettra les rênes du pouvoir à Muhammadu Buhari le 28 mai prochain. S'exprimant après avoir reçu jeudi les représentants de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, le président Jonathan a affirmé que les forces armées nigérianes, avec l'aide de celles du Tchad, du Niger et du Cameroun, étaient en passe de reprendre les territoires de Boko Haram dans les provinces de Borno, d'Adamawa et de Yobe, situées dans le nord-est du pays. Selon le chef de l'État sortant, l'armée nigériane a entamé l'ultime offensive pour reprendre le dernier refuge des insurgés dans la forêt de Sambisa, dans l'État de Borno. C'est dans cette région que pourraient être retenus les quelques 200 adolescentes enlevées il y a un an à Chibok par les islamistes de Boko Haram, selon les autorités nigérianes. Selon les Nations Unies, plus de 1,5 million de personnes ont été déplacées par le conflit qui a fait plus de 13 000 morts depuis 6 ans.
Au Burundi, le président sortant Pierre Nkurunziza est prié de ne pas se représenter pour un troisième mandat. Plus d'un millier de personnes ont manifesté aujourd'hui pour l'en dissuader. La manifestation a viré à l'affrontement. Bilan 2 morts parmi les policiers. 10 d'arrestations, nous dit Idriss Fall.
Environ 1 millier de militants de l'opposition ont tenté de se rassembler dans le centre de Bujumbura. Pour le directeur adjoint de la police, Godfrey Bizimana, ses opposants n'avaient aucune autorisation. La police anti-émeute a donc utilisé des grenades lacrymogènes, des canons à eau. Les manifestants ont répondu par des jets de pierre, entraînant une paralysie dans le centre-ville. 5 partis d'opposition et des dissidents du parti au pouvoir ont lancé mercredi une campagne pour empêcher le président sortant, Pierre Nkurunziza, de se représenter. Monsieur Nkurunziza n'a pas dit clairement ses intentions, mais un congrès de son parti, le CNDD-FDD, est prévu d'ici fin avril pour désigner son candidat à la présidentielle. Selon le HCR, rien que ces 2 dernières semaines, plus de 8000 Burundais ont fui le pays à cause de la montée de tensions avant les législatives en mai et l'élection présidentielle en juin prochain.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les ressources naturelles alimentent les conflits chroniques. Telles sont les conclusions d'un rapport de l'ONU publié aujourd'hui par le Programme de l'environnement. 10 milliards de dollars tirés des trafics d'ivoire, d'or et de bois financent des dizaines de groupes armés. Des activités qui leur rapporteraient jusqu'à 1,3 milliard de dollars chaque année, estime le PNU.
Autre zone de tension, l'Afrique du Sud. Plus de 5000 étrangers ont été déplacés par les violences xénophobes qui secouent le pays depuis 3 semaines. Chiffre avancé par le HCR. Les violences ont fait 6 morts et plusieurs blessés. Compte rendu de la situation avec Michel Joseph.
Johannesburg, aujourd'hui la tension est à son comble. Des Nigérians se sont armés de machettes pour protéger leur commerce. Plusieurs de leurs magasins ont été réduits en cendres par des Sud-Africains ces derniers jours.
Ils nous détestent trop. Nous n'avons pas pris leur travail. Nous ne leur avons rien pris. Nous ignorons pourquoi ils nous en veulent à ce point.
Tout a commencé quand roi Zulu King Goodwill Zwelithini s'est adressé aux migrants en leur disant « Prenez vos sacs et allez-vous-en ». Le chômage rampant et la pauvreté, les Zoulous accusent les immigrés de voler leur gagne-pain. Le nombre des migrants africains dans le pays dépasse probablement largement les 2 millions. Et c'est à Durban que les violences ont fait le plus de victimes. Le gouvernement tente tant bien que mal de contenir la situation. Le président Zuma appelle au calme.
Aucun niveau de frustration ou de colère ne peut justifier des attaques contre les ressortissants étrangers et le pillage de leur commerce.
En 2008, lors des pires émeutes xénophobes d'Afrique du Sud, il y avait eu 62 morts, dont une vingtaine de Sud-Africains pris dans les violences et des dizaines de milliers de déplacés.
Sachez aussi qu'en représailles aux violences xénophobes en Afrique du Sud, plus de 200 manifestants mozambicains ont brièvement bloqué un poste frontière entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Nos frères en Afrique du Sud se font tuer injustement, nous exigeant que les Sud-Africains n'entrent pas au Mozambique et que ceux qui sont entrés s'en aillent, a expliqué un manifestant à l'AFP.
Et immigration toujours, hein, 15 immigrés à peine débarqués en Sicile ont été arrêtés hier par les Carabiniers. Ils sont accusés d'homicide. Selon les témoignages des passagers de cette nouvelle odyssée, ils auraient jeté à la mer 12 de leurs compagnons d'infortune à la suite d'une dispute survenue à bord. Les agresseurs sont de confession musulmane. Leurs victimes étaient de foi chrétienne venues du Ghana et du Niger.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Lutte contre l'Ebola. En visite à Washington, les présidents de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone demandent un plan Marshall s'élevant à 8 milliards de dollars pour éradiquer la maladie et relancer leur économie.
D'accord. Et à l'international, l'ONU a exigé aujourd'hui un cessez-le-feu au Yémen. Les combats entre partisans et adversaires du président Abd Rabo Mansour Hadi et une campagne aérienne arabe contre la rébellion ont fait des centaines de morts dans le pays et provoqué une grave crise humanitaire en près d'un mois. Félix Yepassi-Zembrou.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé à une trêve immédiate dans le pays en feu. Alors que de nouvelles violences ont fait aujourd'hui au moins 36 morts dans le sud du Yémen où se concentrent les combats. Aidés des militaires restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, les rebelles chiites houthis liés à l'Iran poursuivaient vendredi leur offensive dans cette région après s'être emparés de la capitale Sanaa et de plusieurs provinces du nord, du centre et de l'ouest du pays. Pour tenter de stopper leur progression et de les empêcher de prendre le pouvoir dans le pays, une coalition arabe menée par l'Arabie saoudite, alliée du président yéménite Abd Rabo Mansour Hadi, bombarde quotidiennement leur position par les airs depuis le 26 mars. Face à ce drame humanitaire, Ban Ki-moon a souligné qu'il est grand temps de soutenir l'idée de couloirs permettant le passage de l'aide qui sauve des vies et de passer à la paix véritable. Le chaos dans le pays a profité à Al-Qaïda qui s'est emparé jeudi de l'aéroport de Moukalla, chef-lieu de la province du Hadramout dans le sud-est où des tribus infiltrées d'insurgés islamistes ont de leur côté pris le contrôle d'un terminal pétrolier.
Et puis le président américain Barack Obama prévoit une réunion avec 6 chefs d'État du Golfe, le Bahreïn, le Koweït, l'Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Au menu des discussions, le nucléaire en Iran et le conflit au Yémen, en Irak et en Syrie.
Du nouveau en Libye, les délégations des deux parlements rivaux ont remis à l'ONU leurs remarques sur le projet d'accord devant aboutir à un gouvernement d'union nationale. Les pourparlers doivent se poursuivre sur cette base aujourd'hui au Maroc.
Izzet Ibrahim Douri, ancien collaborateur de Saddam Hussein, serait mort dans une opération militaire dans la province de Salah ad-Din. Âgé de 73 ans, Douri, numéro 2 sous le régime baasiste, était en cavale depuis le renversement de Saddam. L'annonce de la mort a été faite par le gouverneur de la province de Salah ad-Din.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Billon.
La grève des contrôleurs aériens a été suspendue au Nigeria, où les vols intérieurs interrompus jeudi ont pu reprendre aujourd'hui selon des responsables syndicaux. Les contrôleurs aériens réclamaient notamment une augmentation salariale et une amélioration de leurs conditions de travail. Les vols internationaux n'ont pas été affectés par la grève de jeudi. Les vols intérieurs sont cruciaux au Nigeria, où les mauvaises infrastructures rendent les voyages par route dangereux et où le réseau ferroviaire est peu développé. Birama Boubacar Sidibé, candidat du Mali à la présidence de la BAD, est en tournée aux États-Unis. Le prochain président de la BAD devra, selon lui, transformer les richesses globales du continent en richesses partagées, tout en portant une attention particulière au secteur privé. On l'écoute.
Pour que cela puisse se passer en respectant le niveau d'endettement du pays, c'est que les infrastructures elles-mêmes doivent être carrément monétisées en termes de certificats d'investissement. Ça permettrait d'abord de générer des ressources qui seraient donc les revenus des investisseurs et en même temps permettrait aussi de ne pas mettre toute la dette sur le dos des États, ce qui n'est pas souhaitable.
Birama Boubacar Sidibé, candidat du Mali à la présidence de la BAAD. La Namibie a lancé hier la phase nationale du projet baptisé Fonds africain de solidarité, une initiative continentale visant à améliorer l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique. Ce fonds, lancé en 2013 en Guinée équatoriale, a pour objectif de mutualiser les plus fortes ressources économiques de l'Afrique et de les utiliser à l'échelle continentale, visant à éradiquer la famine, l'insécurité alimentaire et la malnutrition.
Voilà, c'était la Minute Éco. Merci Jean-Roger Billon.
Plein feu sur les stades, c'est la page sport avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Sport, donc football, huitième de finale, aller de la Coupe CAF.
J'ai aimé la pause. La SEC Mimosa d'Abidjan se déplace ce vendredi au Mali pour affronter dimanche les 11 créateurs de Bamako dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Coupe de la Confédération. Après une semaine de préparation, les jaunes se disent prêts à l'image de leur entraîneur Alain Gouamene.
Physiquement, ils ont bien travaillé. Tactiquement et techniquement, tout va bien. Donc, on est dans de bonnes dispositions. Nous jouons deux matchs. On va pour faire le premier, mais le premier, à un moment où il faut chercher un résultat. Le plus intéressant, c'est d'aller faire un résultat là-bas. D'autant plus que là-bas, il y a un bon terrain de foot. Et ici, on n'en a pas. Donc, il faut essayer de faire le résultat là-bas.
Voilà des propos recueillis par notre correspondant Stéphane C.
En tennis, résultat de la sixième journée du tournoi ATP de Monte-Carlo, disputé ce vendredi.
Oui, un simple messieurs quart de finale, le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, bat le Croate Marin Cilic, numéro 8 mondial, 6-0, 6-3. Rafael Nadal, numéro 3 mondial, domine son compatriote David Ferrer, 6-4, 5-7, 6-2. Et victoire du Tchèque Tomáš Berdych, numéro 6 mondial, sur Milos Raonic, numéro 4 mondial, 5-2 sur abandon. Et le français Gaël Monfils a battu le bulgare Grigor Dimitrov, 6-1, 6-3.
Et en basketball ?
Eh bien, c'est ce samedi que commencent les play-offs de la NBA, les éliminatoires pour le championnat de la Ligue de basketball. Voici donc le programme des rencontres du premier tour de ces play-offs. Dans la conférence Ouest, Golden State Warriors aura comme adversaire Nouvelle-Orléans. Houston affrontera Dallas. Les LA Clippers joueront contre San Antonio. Et Portland sera aux prises avec Memphis. Dans la conférence Est, Atlanta joue contre Brooklyn à New York. Et Cleveland affronte Boston. Chicago contre Milwaukee. Et Toronto joue contre Washington. Il faut dire que chaque confrontation peut aller jusqu'à 7 matchs, en tout cas jusqu'à ce qu'une équipe remporte les 4 matchs, 4 victoires.
Bon, ben écoutez, merci Bagassi.
Voilà, j'espère que vous allez suivre ça. Hein, ça commence demain. Idrissa n'est pas là. Il serait venu nous expliquer un peu les enjeux parce que lui, c'est un accro du sport.
Mais moi aussi.
Ben voilà, quelle est votre équipe alors? En dehors de Washington, bien sûr.
Et ça dépend. Je suis toujours pour l'équipe qui gagne. Et je pourrais vous donner quelques conseils sportifs à Sporama lundi prochain.
D'accord. Merci infiniment. Et à lundi, hein, comme promis.
Voilà.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Salwa Jafari et Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour.
Au Burundi, les partis de l'opposition ont lancé une campagne pour empêcher le président sortant, Pierre Nkurunziza, de se représenter. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, tient son congrès d'ici fin avril pour désigner son candidat à la présidentielle, craignant le pire. Plus de 8 000 Burundais ont fui le pays avant les législatives en mai et la présidentielle en juin prochain. Pourquoi ces scrutins sont-ils à haut risque? Idriss Fall a joint Thierry Villecoulant. Il est responsable Afrique centrale à International Crisis Group à Nairobi.
Ce sont des élections à haut risque parce que la tension électorale est déjà très vive et surtout parce que les enjeux de cette élection sont très très élevés.
Et quels sont ces enjeux? Pierre Nkurunziza n'a pas encore dit qu'il était candidat.
Tout à fait, il n'a pas dit qu'il était candidat, mais il ne cesse d'agir comme s'il était candidat. L'enjeu principal, au-delà de la nouvelle candidature du président Nkurunziza, c'est le maintien des principes de l'accord d'Arusha comme fondation du régime politique burundais.
L'opposition se fonde sur les accords d'Arusha pour dire que Nkurunziza n'a pas le droit de se présenter.
Oui, les accords d'Arusha, les négociations d'Arusha avaient conclu sur l'idée de deux mandats seulement pour le président de la République. Au Burundi, comme dans d'autres pays d'Afrique, cela a été inscrit dans la Constitution et par conséquent, quand c'est ce qui est mis en avant par l'opposition.
Mais les membres du parti au pouvoir défendent le contraire et pensent que le président sortant pourrait se représenter.
La question qui se pose, c'est de savoir combien de fois le président actuel a-t-il été président. Or, il a été président depuis 10 ans, il a fait 2 mandats et c'est ce qui est écrit dans la Constitution. Alors évidemment, il y a une discussion sur une ambiguïté sur le fait qu'il n'a pas été élu au suffrage universel pour son premier mandat. Mais le fait qui est certain, c'est que le président Nkurunziza a été président pendant 2 mandats de plein exercice.
Risque de reprise, de rébellion, de guerre civile, d'autant qu'il y a du monde qui a commencé à fuir déjà le Burundi.
Alors en effet, il y a des signes avant-coureurs très préoccupants d'une crise au Burundi. Ces très récents mouvements de population du Burundi vers le Rwanda, où en à peu près 10 jours, on a 6 000 personnes déjà qui ont traversé la frontière. Et des intimidations qui sont faites par des groupes armés. Et puis surtout une logique de manifestation et de contre-manifestation. Aujourd'hui, il y avait une manifestation à Bujumbura où il y a eu des policiers qui ont été blessés. La tension est en train de transformer sans doute le Burundi en cocotte minute.
Que faudrait-il faire? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des morts ou bien qu'est-ce qui peut être fait?
Il y a surtout une réponse qui doit être fournie par les acteurs burundais eux-mêmes. Il est très important que le congrès qui doit se réunir prochainement du parti au pouvoir réaffirme son engagement pour un processus électoral inclusif. Ça veut dire les principaux dirigeants de l'opposition pourront être candidats aux élections à venir. Pour le moment, il y a une incertitude là-dessus et cette incertitude est extrêmement déstabilisatrice.
C'était Thierry Villecoulon, il est responsable Afrique centrale à l'International Crisis Group à Nairobi.
La Voix d'Amérique au Burundi sur les ondes de la radio publique africaine 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Et nous partons maintenant au Togo. L'Église catholique refuse d'observer l'élection présidentielle du 25 avril prochain. Elle évoque 3 raisons principales. Ses déboires, suite à l'observation de 2010, le rejet des réformes institutionnelles et constitutionnelles et la non-mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Les premiers observateurs internationaux pour le scrutin du 25 avril prochain commencent à arriver au Togo. Aux côtés de ces internationaux, les organisations de la société civile togolaise vont aussi observer cette présidentielle. Un absent de taille parmi les observateurs nationaux est l'Église catholique du Togo. La Commission épiscopale justice et paix veut s'abstenir de toute mission d'observation. Professeur Magloire Kouakoubi, président diocésain Lomé de cette commission.
Le pouvoir togolais a utilisé l'Église pour la CVJR. Et depuis avril 2012, les recommandations sont restées dans le tiroir. Dans ces recommandations, il fallait les réformes constitutionnelles et institutionnelles pour apaiser le pays. Donc, nous nous sommes dit que, comme on n'a pas fait les réformes constitutionnelles et institutionnelles, nous n'allons pas observer parce que c'est comme si on se servait de l'Église pour avaliser des forfaitures juridiques dans un pays qui aspire à être un état de droit, mais qui, en fait, n'a pas cure des droits de l'homme.
Au-delà de ces raisons, la Commission épiscopale du Togo estime avoir tiré les leçons de l'observation de l'élection présidentielle de 2010, précise le professeur Magloire Kouakoubi.
Nous avons eu beaucoup de problèmes en 2010. Une fois que nous avons observé, de mauvaises langues ont fait courir le bruit que l'Église connaissait les résultats et les gardait par-devers soi, ce qui n'est pas vrai du tout. Aucun groupe d'observation ne donne les résultats d'une élection. Nous sommes des commissions justice et paix. Nous ne sommes pas des commissions justice et guerre.
Sur le terrain, les candidats à cette élection présidentielle de 2015 continuent à battre campagne. Dans le pays, les consignes de vote vont bon train. Si les uns accordent leur soutien à tel ou tel candidat, certains partis politiques et autres associations appellent au boycott du scrutin. Le grand enjeu de cette présidentielle sera donc le taux de participation. Kay Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Retour dans cette page magazine sur les violences contre les migrants en Afrique du Sud, des incidents qui se poursuivent malgré les appels au calme des autorités sud-africaines, notamment du président Jacob Zuma. Certains pays africains commencent à réagir à cette situation. Timothée Donongmai a joint à Johannesburg Marc Gbagfo, il est président du Forum de la diaspora africaine.
Aujourd'hui, dans plusieurs petits villages de l'Afrique du Sud, alors que jusque-là, les attaques étaient concentrées autour des grandes villes, aujourd'hui, plusieurs petits villages ont été attaqués. Ils ont attaqué les migrants dans plusieurs petits villages de l'Afrique du Sud. Donc, c'est en quelque sorte une explosion de ces attaques-là aujourd'hui. Oui.
Hier, le président Zuma a appelé à la fin des violences. Alors, qu'est-ce qui explique cette poursuite des violences?
Ce que nous disons, c'est que nous ne savons pas clairement si les messages que les membres du gouvernement lancent sont des messages francs. Parce que quand tu écoutes le gouvernement, pendant qu'on est en train d'attaquer les gens au centre-ville et que le président de la République dit qu'il déploie les militaires dans les frontières pour protéger, pour ne pas que l'Afrique du Sud soit envahie par les gens illégaux, c'est le message que tu envoies à la population. C'est que vous avez raison, vous pouvez continuer d'attaquer. Nous sommes envahis par les migrants.
Quelle est la réaction des autres pays africains face à cette situation?
Au fait, c'est une réaction du tic au tac cette fois-ci. Parce qu'en 2008, quand on a eu les attaques xénophobes, les autres pays africains, puisque c'est la première fois que les attaques se sont passées en 2008, les autres pays africains n'ont rien compris et donc n'ont pas trop suivi. Mais quand ça se passe pour la deuxième fois, et surtout le langage que tient les membres du gouvernement, les autres pays africains sont en train de répondre pour dire que non, mais on est pas dans cette affaire-là, et qu'il y a quand même un non-dit que l'Afrique du Sud nous cache. Voilà. Donc c'est en quelque sorte que les autres pays africains sont en train de répondre pour dire que ça ne va pas se passer comme ça cette fois-ci. On ne peut pas tolérer ces violences-là.
Des exemples de pays qui ont déjà répondu à cette situation?
Au Zimbabwe, il y a eu une marche, au Malawi, donc je parlais tout à l'heure du Mozambique et d'autres pays. En fait, on n'a pas toute la liste, mais je sais aussi que, par exemple, à Londres, Kelly Kumalo, qui est une artiste très connue en Afrique du Sud ici, devait aller jouer à Londres. Tous les Africains qui sont là-bas ont dit que tu ne peux pas venir jouer ici, vous ne pouvez pas chasser les gens et aller chez les autres.
Marc Gbafo, président du Forum de la diaspora africaine, nous parlait de Johannesburg.
Et immigration toujours, hein, 900 migrants se sont noyés dans la Méditerranée depuis le début de l'année. Face à la multiplication de ces tragédies, l'Allemagne, la France, l'Italie et la Slovaquie réclament une solution forte au niveau de l'Union européenne. Pour plus d'éclairage, Isha Grover a joint Florence Kim de l'Organisation internationale des migrations.
Déjà là, en quelques jours, on se retrouve avec un total entre 900 et 1000 morts, ce qui est quasiment 10 fois supérieur au chiffre de 2014. On a identifié plusieurs raisons pour justifier cette augmentation. Déjà, une saison des migrations qui a commencé beaucoup plus tôt que d'ordinaire. Les passeurs attendent le printemps pour pouvoir envoyer les bateaux. On a vu dès février les premiers bateaux arriver et les premières victimes. Par ailleurs, on peut dire aussi qu'il y a un modus operandi des passeurs qui a changé. On voit qu'ils mettent beaucoup plus de personnes sur les bateaux. Et par conséquent, dès qu'il y a un incident, il y a beaucoup plus de morts. Et puis également les capacités de sauvetage qui ont diminué avec, par exemple, l'arrêt de l'opération Mare Nostrum l'année dernière.
Comment est-ce que l'Europe et l'Afrique peuvent travailler ensemble pour combattre ce problème?
À l'OIM, notre première mission est de conseiller les États, de conseiller les États qui le demandent. On a préconisé plusieurs choses. C'est déjà au niveau européen, tout d'abord, c'est qu'ils puissent s'entendre, qu'ils puissent agir de manière plus concertée pour mettre en œuvre une solution commune, hein, dans la région méditerranée. Et puis aussi, nous avons appuyé l'initiative sur la création de centres de réception de migrants dans les pays d'origine et de transit. On a également essayé de favoriser la reprise de l'opération de Mare Nostrum. Ça, nous la conseillons vivement. Et voilà, après, il reste aux États eux-mêmes de s'engager politiquement et d'essayer aussi de trouver, par exemple, une situation politique à la Libye pour assurer une stabilisation du pays.
Une réunion est prévue de l'Union européenne en mai pour débattre de politique des clandestins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Écoutez, c'est justement, il s'agit d'une réunion de l'Union européenne, donc je préfère laisser la parole à nos confrères de l'Union européenne pour se prononcer sur ce sujet-là. Mais c'est évident que l'OIM sera présente et suivra les débats.
Voilà, c'était Florence Kim de l'Organisation internationale des migrations au micro d'Isha Grover.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux de la musique africaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Le Burundi, deux policiers ont été tués lors des manifestations contre une éventuelle candidature du président sortant, Pierre Nkurunziza.
Lutte contre Boko Haram, le Nigeria n'a pas besoin d'aide militaire de l'ONU, c'est en tout cas ce qu'estime le président Goodluck Jonathan.
Présidentielle togolaise, l'église catholique refuse d'observer le scrutin du 25 avril prochain.
Gros plan sur l'immigration en Afrique du Sud. Plus de 5000 immigrés ont été déplacés par les violences xénophobes qui secouent le pays depuis 3 semaines.
Et pendant ce temps, du côté de la Méditerranée, on compte déjà 900 migrants noyés depuis le début d'année.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les ressources naturelles alimentent les conflits chroniques. Telles sont les conclusions d'un rapport de l'ONU publié aujourd'hui par le programme de l'environnement. Les milliards de dollars tirés des trafics d'ivoire, d'or et de bois financent des dizaines de groupes armés. À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma.
Présentation Morgane Guiriec et Saloua Jafari.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.